savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Sophie Dorlotin, Elisabeth Le Quéré.
Bonjour Anis Oroma, bonjour Elisabeth.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
Le FESPACO a 50 ans, on vous en parlait la semaine dernière à quelques heures de l'ouverture. Cette fois nous sommes à quelques heures du palmarès du plus grand festival de cinéma en Afrique subsaharienne francophone. Pronostic, coup de cœur et belle rencontre, nous faisons le point avec nos envoyés spéciaux à Ouagadougou. Ouagadougou se trouve également cette semaine notre invité de la semaine, Claude Forest, enseignant-chercheur en économie du cinéma, qui vient de publier une étude très documentée sur le financement du cinéma en Afrique de 1960 à nos jours. Nous ferons le point avec lui dans une vingtaine de minutes, le point sur l'état des cinémas d'Afrique. État de la production, surtout l'un des premiers maillons de la chaîne du 7e art. Mais tout d'abord, nous retrouvons nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Gaël Alex et Olivier Roger, bonjour.
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 Vous avez fait vivre le 26e FESPACO sur l'antenne. Alors tout d'abord, ma question, donc après une semaine de festival, comment était l'ambiance à Ouaga?
Toujours un grand enthousiasme pour ce festival qui représente beaucoup le Burkina, qui fait connaître dans tout le continent. Quand on était à la cérémonie d'ouverture, le stade était quand même relativement plein, avec une foule hyper enthousiaste, très émue. J'ai entendu beaucoup de gens nous dire le FESPACO c'est nous, le FESPACO c'est le Burkina, c'est quand même une fierté nationale.
Et les organisateurs attendent environ 100 000 spectateurs durant toute la semaine. Et il faut dire une chose, les cinémas sont bien pleins, les files d'attente devant les salles sont toujours très longues. Il y a toujours un engouement des visiteurs, du public, de ceux qui viennent de la sous-région, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent du Mali, de Côte d'Ivoire, du Sénégal, toute l'Afrique en fait s'est donné rendez-vous ici, et ça se sent un petit peu dans les rues de Ouagadougou.
Alors effectivement, donc il y a les projections dans les salles de cinéma dédiées, je pense par exemple au cinéma Nerwaya, des films qui sont en sélection, au total 165 films en sélection dans le FESPACO, dans différentes catégories, mais il y a aussi des projections en public, peut-être en plein air. Gaël Alex, vous avez suivi l'association, le CNA Afrique, un cinéma numérique ambulant qui organise tout au long du festival des projections nocturnes des films primés.
Devant le lycée Vénégré, dans le quartier de Pissy, l'équipe du Sénat monte l'écran géant. Jérémy vient d'un lycée voisin et a fait un peu de route pour venir.
Notre professeur de français nous a recommandé, il nous a conseillé de venir regarder ces films. Il nous a donné genre un exercice à base des films africains.
Est-ce que vous en avez vu beaucoup des films africains?
Bon, pas trop comme ça. Bon.
Et ça vous plaît ça, le cinéma
africain?
Oui, ça
me plaît. Parce que déjà, les films africains sont des films éducatifs, dénoncent les bonnes mœurs.
Et c'est pas le cas des films américains ou européens?
Bon.
Et Boumimi a 18 ans, elle aime le cinéma mais regrette de ne pas avoir plus d'occasion de voir des films de son continent.
J'aime les films africains parce que, en premier lieu, ça manque mon identité. Deuxièmement, je vois que sans les films africains, franchement, on ne peut pas avancer parce que ça donne des conseils.
Est-ce que ça parle de sujets dont vous ne parlez pas en famille, par exemple?
Oui, parfois, oui, Anna. Mariage forcé et la polygamie, en tout cas, tout.
Ça, vous n'en parlez pas en famille?
Des sujets sensibles que les lycéens n'abordent qu'à travers des films éducatifs. Johan, lui, voudrait apprendre par le cinéma encore bien des choses.
À l'école, on nous payait des films sur le VIH et des films sur les élèves.
Mais sur quel sujet, par exemple, vous prenez des conseils dans les films?
Ça nous apprend à draguer les misses, en tout cas.
Dans quel film vous avez appris à draguer les misses?
Sur les films romantiques. Surtout actuellement sur Telenovelas, ça nous apprend à draguer les bosses.
Bonsoir la population de Pissy. Nous sommes là dans le cadre du FESPACO avec le cinéma numérique ambulant.
Vers 20h, la projection démarre. Ce soir, c'est Gimba, un film de Cheikh Oumar Sissoko.
Une cinquantaine de jeunes, debout ou assis sur leur moto, font silence. Après, il y aura débat. Moncœur Ndiaye, animateur du Sénat.
Ça se passe bien. Il y avait du monde quand même. On nous a très bien reçus quand même. Ils ont souvent la possibilité de dire ce qu'ils ne peuvent pas dire chez eux parce qu'il y a des sujets tabous. Quand on projette par exemple un film sur la sexualité, ils ont la possibilité de dire ce qu'ils pensent en public, contrairement quand ils sont chez eux.
Mais alors vous n'avez pas eu des débats trop compliqués ?
Bah souvent.
Chaque soir, 8 projections ambulantes sont organisées dans Ouagadougou. Gaëlle, on vient d'entendre là votre reportage dans un quartier de la ville à Ouaga. Le FESPACO, évidemment, c'est la grande fête des cinémas africains et l'occasion souvent pour les spectateurs de découvrir des films qu'ils ne connaissent pas, hein, des films africains. En l'occurrence, là, c'était des projections de films qui avaient été primés. Là, Gimba, c'était en 1995 au FESPACO. Il y a du public aussi pour voir les films en sélection. Comment ça se fait ? Est-ce que le goût du public est aussi un peu le même que le goût des festivaliers, des professionnels, des critiques de cinéma qui se retrouvent à Ouaga ?
Non, je pense que c'est assez différent en réalité. Je pense qu'il y a un véritable décalage entre la profession et le public parce qu'on a pu voir des films avoir un certain succès en salle, des films à tout petit budget. Je pense à Barkomo, le film malien qui a été tourné dans des conditions extrêmement difficiles en pays Dogon, qui a un tout petit budget et en plus tourné dans une zone de conflit communautaire, qui a eu un bon succès en salle. Les gens ont rigolé, applaudi. Bon, on sait que c'est un film qui aura sans doute très peu de chance quand même d'avoir une récompense lors de ce festival. Donc, manifestement, le festival met en exergue un peu ce paradoxe entre la profession et puis le public et ses attentes.
C'est un peu une règle générale d'ailleurs dans les festivals, hein. Les choix de jury et ceux du public sont souvent très très différents. Et vous l'avez dit, Gaëlle, ici, on s'aperçoit qu'à l'applaudimètre, par exemple, Apolline Traoré remporte un franc succès, ce qui n'est pas forcément l'avis de tous les professionnels qu'on a pu interroger autour des qualités de son film ou des défauts de son film. Donc il y a toujours ce décalage, n'empêche. On peut peut-être quand même remarquer que, selon certains spécialistes, les goûts du public et ceux des professionnels ont tendance de plus en plus à converger et à se rapprocher. C'est du moins ce que me disait un réalisateur hier.
Alors justement, Olivier Roger, là on est à quelques heures du palmarès, donc je sais que vous n'êtes pas dans le jury, que vous n'avez pas de boule de cristal. Vous parliez là d'Apolline Traoré qui est l'une des réalisatrices en compétition. Son film d'errance fait partie des 20 films en compétition pour l'étalon d'or de Yenenga. Est-ce qu'il y a quand même des favoris là qui se dessinent ? Est-ce qu'il y a un peu des noms qui reviennent ?
Alors il y a des noms qui reviennent, hein. Il y a celui d'Apolline Traoré, pourquoi ? D'abord parce que le Burkina n'a pas eu l'étalon d'or de Yenenga depuis déjà pas mal d'années, parce qu'aucune femme n'a jamais remporté cette récompense suprême, donc elle incarne l'espoir de tout un pays, elle incarne l'espoir d'une génération de cinéastes aussi, et à l'applaudimètre, beaucoup de gens aimeraient bien qu'Apolline Traoré remporte cet étalon. Ça c'est une chose, le choix du public est clairement en sa faveur ici à Ouagadougou, parce qu'elle est aussi la régionale de l'étape. Maintenant, est-ce qu'il y a des favoris ? Comme vous l'avez dit, je ne suis pas Ahmed Bedjaoui, le président du jury. Je ne suis pas membre du jury, mais moi, je dirais quand même que si je devais voter, je voterais pour Mahmoud Ben Mahmoud et son magnifique film Fatwa. Pour moi, c'est vraiment un très très beau film porté par Ahmed Afian, un acteur extraordinaire qui crève littéralement l'écran. Ce film raconte en deux mots l'histoire d'un homme qui rentre au pays pour enterrer son fils qui est mort dans un accident de moto en Tunisie, et il s'aperçoit que la réalité est très différente, et en fait il va, au cours d'une enquête, une sorte d'enquête policière parallèle, reconstituer la vie de ce fils qu'il n'avait pas vu depuis 3 ans et découvrir qu'il était devenu salafiste. Et c'est donc une plongée comme ça dans le passé de ce garçon qu'il a finalement assez peu connu, de ce jeune homme avec qui ce père était un peu séparé, et il va comprendre que son fils s'était radicalisé. Je vous raconte pas toutes les ficelles du scénario parce qu'il est assez complexe et très bien fait. C'est un film militant, c'est un film engagé qui prône un islam tolérant et une appropriation culturelle en Tunisie, mais c'est un film qui dénonce surtout la violence des salafistes. Donc c'est un film politique, un petit peu comme le faisait Costa Gavras à l'époque dans les années 80. C'est vraiment un film engagé. C'est un film qui a énormément de qualité et pour moi, si le jury devait en récompenser un, je pense qu'il fait figure de favori d'ores et déjà.
Et puis il a déjà, disons-le, un fatwa de Mahmoud Ben Mahmoud a déjà remporté le Grand Prix il y a quelques mois aux Journées cinématographiques de Carthage. Dans les autres films, dans vos autres coups de cœur, Olivier, Roger, quels sont les films ? Il y a un film, je crois, de Yasmine Chouir, c'est ça, Jusqu'à la fin des temps ?
Oui, alors ça c'est vraiment l'une des petites perles et des surprises, des belles surprises qu'on a eues ici au FESPACO. Yasmine Chouir est une jeune réalisatrice algérienne. C'est son premier long métrage Jusqu'à la fin des temps et c'est une histoire très très concertante au début. Et elle-même, elle explique qu'elle avait beaucoup de mal à pitcher son film aux producteurs intéressés parce que c'est une histoire d'amour dans un cimetière. Voilà. Et puis en fait, il se passe pas grand-chose, mais il se passe tout dans ce film. Il y a une galerie de personnages qui sont tous plus vivants les uns que les autres, qui sont absolument incroyables. Il y a Ali et Joher. Ali est le fossoyeur. Joher est venu rendre hommage à sa sœur qui est enterrée dans ce cimetière. On est dans un petit village qui s'appelle Sidi Boulekbour, perdu dans la montagne algérienne. Un village d'ailleurs où les gens viennent en pèlerinage. Donc il y a un flux de personnes qui arrivent dans ce film et qui vont apporter leur grâce, leur beauté, leurs histoires personnelles durant tout ce film. Et Yasmine Chouir a réussi quelque chose d'absolument merveilleux, c'est de faire un film d'une bienveillance extraordinaire où les gens prennent soin les uns des autres. Alors on peut peut-être parfois lui reprocher d'avoir fait un film bisounours, on va dire, mais c'est pas tout à fait ça, parce que ces personnages ont beaucoup de profondeur, ils sont lumineux, les destins se croisent, s'entrecroisent, pas toujours pour le meilleur, parfois aussi pour le pire, mais c'est clairement un film qui prône des valeurs humaines, des valeurs sociales, des valeurs de tolérance. Elle-même explique que bien pour ce film, elle voulait montrer qu'on peut faire société, on peut être ensemble, accepter nos différences et aller un peu plus loin. Et dans l'Algérie contemporaine, dans l'Algérie d'aujourd'hui, je pense qu'elle essaie de faire passer un message essentiel. L'actualité est sans doute en train aussi de la rattraper avec ce qui se passe aujourd'hui dans les rues d'Alger. Et en tout cas, après cette décennie 90 tragique dont les Algériens ont toujours beaucoup de mal à se remettre, son film tente d'apporter une réponse, un dépassement de tous ces clivages, de tous ces interdits sociaux, moraux, culturels, pour aller plus loin et se projeter dans une société ensemble de bienveillance. Donc ce film a à la fois des qualités pédagogiques, des qualités sociales, des qualités cinématographiques aussi très importantes, parce que outre le fait que les acteurs sont parfaitement bon et lumineux, elle manie la caméra avec énormément de grâce et de poésie, utilisant parfaitement à la fois les lieux, les situations et le paysage. Et ça donne un film assez réussi, un véritable petit bijou.
Yasmine Chouir, donc 37 ans, l'une des femmes en compétition ici au FESPACO. Yasmine Chouir, que vous avez rencontré, Olivier.
Bonjour Yasmine Chouir.
Bonjour.
Vous êtes au FESPACO avec votre film Jusqu'à la fin des temps. Quand on regarde ce film, on se dit c'est un film résilient, bienveillant. Est-ce que ce terme de bienveillant, vous l'acceptez ?
Oui, enfin, c'est un joli mot pour le cinéma. Le cinéma, il faut qu'il soit tout. Il y a des films qui doivent nous percuter, il y a des films qui doivent nous réveiller, il y a des films qui doivent nous bercer, il y a des films qui doivent nous penser nos blessures. Le cinéma, il a tous ces rôles-là. Et si mon film fait partie de ces films-là qui sont, oui, feel good movie un petit peu ou bienveillant, tant mieux, parce que c'est comme ça que moi je l'ai imaginez, c'est comme ça que je l'ai conçu. C'est ce que je ressens quand très souvent, c'est exactement le mot que j'utilise quand on me dit comment votre film est reçu. Je dis, je sens de la bienveillance. Les gens me parlent très gentiment, ils sont bienveillants, ils sont souriants.
Parce que vos personnages dans le film sont bienveillants. Il faut expliquer un petit peu aux auditeurs ce qu'il y a dans ce film. Il y a avant toute chose des personnages bienveillants qui prennent soin des autres, qui s'occupent des autres, qui ne les jugent pas. Tout le monde s'occupe de tout le monde et tout le monde est bienveillant avec les autres. C'est en ça que votre film fait du bien, non ?
Pourquoi pas un monde où on pourrait se faire tous plus ou moins accepter ? Parce que dans le film, j'ai l'impression que j'ai dessiné un monde des bisounours où tout le monde s'aime, mais au fond, je pense pas que ce soit exactement ça, parce que je voulais construire une structure familiale qui serait en dehors de la structure familiale classique du sang, pour dire qu'on peut se réunir tous, on peut être tous différents dans un seul endroit et finalement pouvoir quand même naviguer sur cette petite barque, même si on est tous différents et qu'on peut arriver jusqu'au rivage ou à l'horizon sans s'entretuer, sans jeter quelqu'un par-dessus bord, sans... Et c'était vraiment peut-être un besoin pour moi à un moment donné où il y a trop de violence. Même quand j'ai commencé à écrire ce film pour essayer de le faire financer, en essayant de faire les notes d'intention, à l'époque c'était très compliqué parce que ce film ne parlait de rien qui pouvait être attirant à ce moment-là, et à chaque fois je me retrouvais face à des personnes qui me disaient oui mais ça parle pas de cette cause-là, ça parle pas de ça, ça parle pas de ça. Finalement je me suis dit ça veut dire que les gens normaux, que la vie normale, que des gens qui sont bienveillants envers les uns envers les autres n'ont pas le droit d'exister dans le cinéma ou...
Ce qui est remarquable dans votre film, c'est ce présupposé de départ, c'est-à-dire qu'on est dans un cimetière, il y a Ali le fossoyeur, il y a Joher qui vient pour rendre hommage à sa sœur qui est enterrée, et tous ces personnages sont plus vivants en fait que tout le monde, et donc ce contraste est là, ce contraste renforce le caractère vivant des personnages.
Quand j'ai commencé à écrire, pour moi j'ai raconté l'histoire d'une vie, de gens qui vivent. Et j'ai installé ça dans un cimetière, et au départ je me suis pas rendu compte que ça pouvait être un petit peu déroutant d'installer une histoire dans un cimetière. Inconsciemment, c'est, pour moi le cimetière est un lieu de vie parce qu'il y a plein de choses, parce que j'ai grandi en allant tous les vendredis au cimetière, et pour moi je voyais ça comme un lieu où toutes les familles se réunissent les vendredis. Donc pour moi, c'était inconsciemment inscrit dans mon cerveau que le cimetière était un lieu de vie. Et puis même intellectuellement, des fois quand je réfléchis, je me dis que, ok, très bien, les morts, ils sont morts, ils sont là, ils sont sous la terre, mais tout ce qui est sur la terre, finalement, est en vie. Et en plus, ce qui nous amène, nous, être humain dans un cimetière, ce n'est pas la tristesse. Oui, on est triste, mais ce n'est pas la haine, c'est l'amour. C'est un amour éternel, c'est un amour pour les personnes qu'on a perdues.
Vos personnages sont vivants, ils sont surtout très libres. On a l'impression d'être en dehors de la société habituelle où chacun juge son voisin, où chacun veut imposer des interdits sociaux, moraux, religieux. C'est un mythe ou une réalité dans la vie contemporaine aujourd'hui en Algérie?
Je pense qu'il y a un petit peu des deux, hein, parce que si la réalité n'était que médisance et pression et tout, il n'y aurait pas d'espace de liberté, il n'y aurait pas d'espace d'évolution pour l'être humain. Moi, ma liberté, elle ne se situe pas dans le fait de porter ou de ne pas porter le voile. Ma liberté se situe dans choisir quoi porter, choisir quoi dire. C'est ça dont le film parle. Il parle d'êtres humains qui sont libres. Chaque personnage est libre selon sa vision de la liberté.
Merci beaucoup, Yasmine Chouir.
Une autre femme en compétition, Olivier, vous en parliez hein, tout à l'heure, eh bien, c'est Apolline Traoré. Apolline Traoré, donc réalisatrice burkinabé, qui revient, parce que c'est un peu une habituée du FESPACO, qui revient avec son film « D'errance ».
Et avec beaucoup d'ambition, hein, je crois que Apolline Traoré ne le cache pas, elle aimerait bien recevoir cette récompense. Il y a 3 films burkinabés en compétition dans la catégorie Reine, il y a Douga et Akilitan en mémoire en fuite, mais clairement, parmi ces 3 films, celui d'Apolline Traoré se distingue, à la fois parce que elle utilise un procédé qui est très intéressant, elle prend une situation qui est en Côte d'Ivoire entre 2010 et 2011, c'est-à-dire ce moment où le pays bascule dans la violence et la guerre civile, et au premier plan elle met 2 personnages, un papa et sa fille. En fait, on suit ce couple, la fille essaye de prouver à son père qu'elle mérite de porter le nom d'Errance, qui est un vieux nom haïtien qui a été incarné 2 générations plus tôt par un grand-père qui était général napoléonien. Le papa, lui, est heureux parce qu'il attend un petit garçon, et il explique un peu maladroitement devant sa fille que c'est merveilleux parce qu'enfin son nom va se transmettre. Et la petite fille va essayer de prouver à son père qu'elle a le droit elle aussi de porter ce nom, qu'elle est digne d'incarner la descendance de son père. Et lorsque le papa va se retrouver en difficulté parce qu'il ne supporte pas la violence, la guerre, puisqu'il a été traumatisé dans son enfance, et que cette guerre le rattrape dans le quotidien puisque Abidjan bascule dans la violence, eh bien c'est la petite fille qui va tirer son papa avec son courage, qui va l'amener plus loin, qui va l'amener à avancer, à continuer, à se sauver d'une situation périlleuse. Donc c'est un film très intéressant de par sa construction, de par le jeu d'acteur aussi. La petite fille absolument extraordinaire. Et puis je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est porté par Jimmy Jean-Louis, qui est un acteur que vous connaissez très bien et qui est un acteur assez magnétique et qui apporte à ce film une dimension supplémentaire. On pourrait peut-être reprocher juste une petite chose, c'est quelques incohérences dans le scénario, et je me demande à titre personnel, moi Olivier Roger, si ces incohérences ne risquent pas de lui coûter la récompense suprême.
Vous le disiez, Apolline Traoré est allée chercher une star haïtienne, Jimmy Jean-Louis, qu'on a vu effectivement dans des films ou des séries à Hollywood. Donc Jimmy Jean-Louis à l'affiche de D'Errance. Jimmy Jean-Louis que vous avez rencontré, Olivier Roger, et qui revendique sa place dans le cinéma africain.
C'est tellement important pour moi de faire partie, mais complète, de ce cinéma africain qui est le futur du cinéma. Pourquoi ? Parce que c'est quand même le seul continent qu'on n'a pas suffisamment vu dans le cinéma. Il y a des talents fous, il y a des histoires folles à raconter, que ce soit sur les héros, sur la culture, les langues, les différents pays. Donc c'est pour ça que depuis très longtemps, j'ai commencé à titiller ce cinéma, en commençant par le Nigeria, où j'ai fait au moins 5 voire 10 films, en passant par le Ghana, le Sénégal, le Maroc, l'Afrique du Sud, et maintenant je me suis retrouvé entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso.
Qu'est-ce qui vous plaît dans la démarche et dans le cinéma d'Apolline Traoré ?
Elle est sûre de ce qu'elle veut. Elle est d'une justesse impressionnante. C'est une femme qui représente aussi le futur, dans le sens que on sait que le monde a été gouverné, dirigé par des hommes pendant des années et ça marche pas trop bien. On peut faire ce bilan, au moins, ce constat. Mais on rentre dans l'ère de temps où on ouvre la porte aux femmes. Donc je pense que c'est bien d'être une femme de nos jours. Et Apolline représente cette force. Elle est sûre d'elle, elle sait ce qu'elle veut, elle a des vraies idées, des vrais motifs, et elle met tout ça en valeur à travers le cinéma qu'elle fait.
Jimmy Jean-Louis, Olivier Roger, Jimmy Jean-Louis donc à l'affiche du film d'Apolline Traoré, D'Errance. Gaëlle Allais, je crois que vous l'avez rencontré aussi, Jimmy Jean-Louis.
Oui, absolument, il est très enthousiaste. Il a en réalité 2 films hein, qui sont présentés au cours de ce FESPACO, mais c'est évidemment D'Errance qui a le plus de chance. Alors il est très enthousiaste parce que l'engouement du public est là, pour les raisons qu'a évoqué Olivier, d'abord la qualité du film, mais aussi ce qu'il représente, les femmes, le Burkina. Et il me confiait qu'il regrettait un peu finalement qu'à ce FESPACO, il n'y ait pas un prix du public, puisqu'on en revient à ce qu'on disait au début de l'émission, il y a toujours ce décalage, et que là, c'est vrai qu'on sent que les gens sur place, le public pousse, ils ont envie de voir D'Errance récompensée cette année.
Voilà, donc peut-être une idée hein, pour la prochaine édition du FESPACO, donc un prix du public. Olivier Roger, maintenant le temps file, donc il va falloir que vous nous donniez un peu vos autres découvertes assez rapidement. En compétition, vous me parliez d'Indigo de Selma Bargache.
Oui, Selma Bargache et Indigo, c'est vraiment l'un de mes coups de cœur aussi parce que c'est un très beau film sur l'adolescence porté par une jeune actrice de 13 ans qui est absolument magnifique, qui s'appelle Rim Ketani, qui interprète Nora dans ce film. Et Nora, c'est une petite fille qui croit posséder un don de clairvoyance. Et en fait, ce don va se révéler être un peu une malédiction parce que la société ne l'accepte pas. Il y a un autre film qui a fait sensation dans mon cœur et aussi parmi le public parce que j'en ai parlé avec plusieurs personnes. C'est celui de Joël Karakézy qui a ouvert le festival. Qui s'appelle La Miséricorde de la Jungle. C'est en fait un huis clos dans cette jungle oppressante entre 2 soldats, un vétéran et un jeune soldat qui sont perdus au cœur des ténèbres, et on s'aperçoit que dans cette jungle, eh bien, les monstres les plus dangereux ne sont pas forcément les animaux, mais surtout les hommes. Et c'est un film antimilitariste qui est extrêmement réussi. Je voulais aussi vous parler de plusieurs choses. C'est les films un peu décalés, un peu loufoques, un peu outsider aussi sans doute pour certains. Parmi les films un peu loufoques, il y a celui de Peter Sedoufia. Peter Sedoufia, c'est un Ghanéen qui s'est rendu célèbre par des séries drôles au Ghana, des séries humoristiques. Et là, il signe un film burlesque et loufoque qui s'appelle Keteke. C'est l'histoire d'un couple, Atsway et Boy, qui sont perdus dans la brousse à attendre un train qui ne vient jamais ou qu'ils n'arrivent jamais à rattraper. Et bien évidemment, c'est une métaphore autour de la vie de couple qui est absolument savoureuse, qui se situe dans les années 80 dans la brousse au Ghana. Je voulais aussi vous parler très rapidement de Mabata Bata, qui est le 17e film de Sol de Carvalho, le Mozambicain. Il est basé sur une nouvelle de Mia Couto, écrivain mozambicain lui aussi. Et c'est un film très poétique avec une photo extraordinaire, une lenteur propre aussi à la campagne, puisque c'est un film qui se situe à la campagne et qui raconte en fait l'invasion, on va dire, des restes de la guerre civile qui pendant 18 ans a frappé le Mozambique dans le pays profond d'aujourd'hui, puisque c'est l'histoire d'un berger qui va perdre une vache sur une mine antipersonnelle, et ça va provoquer un drame dans la communauté puisque cette vache était destinée à servir de dot à un mariage. C'est un film, je dirais, quand même assez réussi, très très beau. Voilà un petit peu pour mes coups de cœur et mes outsiders.
Ouais, c'est pas mal, hein, tous ces coups de cœur. Il y en a forcément un qu'on va retrouver dans quelques heures au palmarès. Merci Gaëlle Alex, merci Olivier Roger. On vous laisse, Olivier, car je sais que vous allez courir, voir, assister au palmarès de cette 26e édition du FESPACO. Une pause musicale dans tous les cinémas du monde. Une nouveauté Kourou du chanteur burkinabé Seydou Borou. Bien sûr, RFI à l'écoute de tous les cinémas du monde pour une spéciale FESPACO ce samedi à quelques heures de la cérémonie de clôture. On reste à Ouagadougou avec vous, Claude Forest. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant, chercheur en économie et sociologie du cinéma à la Sorbonne et vous venez de publier chez L'Harmattan un ouvrage intitulé « Production et financement du cinéma en Afrique subsaharienne francophone », une étude fouillée très documentée allant de 1960, les indépendances, à nos jours. Alors vous aviez mené en 2017 des entretiens pendant le FESPACO avec 22 producteurs et réalisateurs de 9 pays différents et vous êtes actuellement, vous participez à cette 26e édition du FESPACO, enfin en tout cas vous y êtes festivalier, c'est pour un nouveau livre ?
Alors oui aussi en partie puisque je continue les recherches sur une histoire économique du cinéma en Afrique francophone sud-saharienne et que après la production c'est maintenant une étude de la diffusion et des salles de cinéma à laquelle je m'attaque.
Est-ce que vous avez le temps de voir des films ?
Alors peu malheureusement, trop peu, parce qu'il y a de nombreuses rencontres et les entretiens aussi avec les professionnels sont tout à fait intéressants, en plus du marché du film où il peut y avoir d'autres conférences qui nous permettent de bien mesurer l'état du marché.
Alors revenons donc à cet ouvrage sur la production et le financement du cinéma en Afrique subsaharienne francophone. Est-ce que c'est le premier volume d'une série ?
Oui, tout à fait. Donc il y aura deux, voire peut-être trois volumes sur l'histoire des salles et de la distribution. Il y en aura un aussi sur le rôle des États sur toute l'Afrique francophone. Et alors un peu à part, puisqu'on a déjà mené des enquêtes effectivement aussi sur les pratiques des spectateurs et une grande étude comparative menée pour la première fois à notre connaissance entre deux pays d'Afrique du Nord et deux pays d'Afrique subsaharienne, le Maroc, Tunisie d'une part, Togo, Tchad de l'autre, va également sortir avec une enquête très poussée, plus de 700 questions sur chacun des pays.
Justement, si on parle des États, Claude Forest, le Burkina Faso, il a une place très très particulière dans le cinéma tel qu'il se fabrique, tel qu'il se diffuse, tel qu'il se montre. C'est un peu l'exception africaine, non, le Burkina ?
Ça dépend à quel point de vue. Historiquement, oui, du fait, encore une fois, de la création en 69 du FESPACO dans lequel nous nous trouvons, du fait aussi, effectivement, de la pérennité et du fort engagement qu'il peut y avoir pour des raisons politiques ensuite, notamment par Thomas Sankara dans les années 80. Mais malheureusement, aujourd'hui, au-delà de l'image, au-delà de ce grand rendez-vous biannuel qui se produit et qui est très important, qui est fondamental naturellement pour le cinéma, au point de vue de la structuration de l'industrie, au point de vue des salles, au point de vue de la formation aussi, qui est un élément tout à fait essentiel, dont on débat beaucoup en raison de la qualité, du niveau de qualité des films, de beaucoup de films qui sont montrés. Malheureusement, le Burkina est là encore similaire, leur situation similaire à tous les autres pays d'Afrique francophone subsaharienne.
Justement, pour ces 50 ans d'anniversaire du FESPACO, vous qui connaissez le temps long du FESPACO, j'imagine que vous y venez depuis très très longtemps, et il a évolué comment le parc des salles du Burkina, de Ouagadougou ?
Alors, à l'image de tous les autres pays, malheureusement, francophones, à savoir que l'apogée se trouve dans les années 70-80, et qu'ensuite il ne cesse de décliner pour de très nombreuses raisons, mais notamment une mauvaise gestion, l'absence de contrôle de recettes, donc après un accès difficile à la distribution des films, l'effondrement de la distribution, etc., plus l'apparition de concurrents. Dans les années 70-80, en Afrique, sur les 14 pays d'Afrique francophone, il y avait environ 350 salles. Aujourd'hui, on est à 40 écrans numérisés. On est vraiment très très loin du niveau des années 70-80 et on est loin d'un cinéma populaire tel qu'il était justement à l'origine du FESPACO.
Donc beaucoup de problèmes hein, dans l'économie du cinéma, ou je devrais dire des cinémas africains, Claude Forest. Vous commencez votre livre sur la production et le financement par un constat sombre, en fait, l'absence en fait, de producteurs africains identifiés et de structures de production.
Tout à fait, c'est un problème absolument fondamental. Du fait que l'industrie a été détruite, toute la filière a été détruite, tous les réalisateurs qui souhaitent très légitimement s'exprimer ne trouvent pas de personnes ni de structures aptes à les financer et donc de facto sont amenés à faire eux-mêmes de la production. Donc la quasi-totalité des personnes que j'ai pu rencontrer sont réalisateurs, producteurs, producteurs souvent par défaut. Voilà, il y a très très peu de producteurs dont c'est le métier. Alors, ça a de très nombreux inconvénients parce que les métiers de réalisateur et de producteur sont tout à fait antinomiques. Le réalisateur a une vision qu'il souhaite exprimer en tant qu'auteur. Pour cela, il construit son histoire et il a besoin de moyens pour cela. Le producteur, lui, c'est l'inverse. Il est là pour trouver ses moyens, les gérer au mieux. Alors, moyens humains, moyens matériels, moyens financiers. Et donc, les deux fonctions sont antinomiques. Donc, les deux cohabitent dans la tête de la même personne. D'ailleurs, certains des producteurs interviewés dans l'ouvrage que vous citez le disent extrêmement bien. C'est difficile parce que l'un dépense l'argent et l'autre doit le trouver. Donc, dans la même tête, c'est pas toujours facile. Et
du coup, ils vous disent quoi, les producteurs? Alors là, je parle, Claude Forest, des vrais, si je puis dire, producteurs africains, parce qu'il y en a au Sénégal, Alain Gomis a travaillé avec un producteur sénégalais pour Tay, qu'il a suivi avec d'autres producteurs congolais pour Félicité. Donc ils vous disent quoi de leur métier ?
Alors beaucoup sont assis, y compris ceux que vous citez, malgré tout sur le Nord, ou en maison de production au Nord, pour avoir un accès justement au financement. Le problème bien sûr c'est le hiatus entre les niveaux nécessaires pour mobiliser donc de l'argent entre les cinémas qui se font habituellement en Afrique subsaharienne et ceux des autres industries. Alors de grandeur que vous connaissez, le coût moyen d'un film hollywoodien c'est 50 millions de dollars, le coût moyen d'un film français c'est un peu moins de 5 millions d'euros. Et puis, de nombreux films se font sur la zone autour de Hollywood pour 40 000 euros. Donc, on est sur des différentiels extrêmement importants. Or, pour être compétitif à l'international, c'est vrai que quand même, mobiliser au moins 2 à 3 millions d'euros, c'est une nécessité parce que ça se voit sur l'écran, naturellement, en termes de temps de préparation, de moyens disponibles, etc., etc.
Vous pointez justement, Claude Forest, les relations tumultueuses et qui peuvent peut-être en partie expliquer l'absence en fait de structures de production en Afrique, les relations tumultueuses entre les réalisateurs d'Afrique subsaharienne francophone et l'ancienne puissance coloniale, c'est-à-dire par le biais de fonds d'aide au cinéma.
Alors tumultueuse, je ne sais pas, mais en tout cas ambivalente à coup sûr. Mais c'est l'effet absolument de toute loi et de toute subvention. Il y a des effets bénéfiques et des effets qui peuvent être pervers sans forcément qu'on en ait conscience ou qu'on le souhaite. Alors, l'avantage, c'est que sans cette aide-là, la quasi-totalité des films dont on parle aujourd'hui de référence en long métrage n'existerait pas. Et un effet pervers qui existe encore aujourd'hui, c'est que la plupart des aides qui sont accordées ont une contrepartie. Et la contrepartie, c'est ce qu'on appelle une aide liée. L'argent n'est donné que si une partie de cet argent est dépensée en France ou en Europe.
Alors dans ce paysage vraiment compliqué, effectivement, pour faire des films, certains réalisateurs se débrouillent hein, malgré tout pour tourner, par exemple au Mali. Le Mali n'a pas remporté les talons d'or de Yenenga, donc au Burkina, depuis 1995. Hein, la dernière fois, c'était donc Guimba de Cheikh Oumar Sissoko. Cette année, Un seul long métrage malien est sélectionné. Il s'agit de Barkomo, la grotte, d'Aboubacar Bablé de Rabat et de Boukari Ombontimbe. Un film réalisé à très petit budget en quelques semaines, donc par ces jeunes cinéastes. Et suivant leur modèle, ils sont nombreux à tenter de renouveler le cinéma malien et de l'imposer sur les écrans africains. On écoute un reportage à Bamako de notre correspondante Coralie Pierret.
En banlieue de Bamako, Issoufba travaille dans le brouhaha du studio. Sur un coin de bureau, il développe en 2D son premier film d'animation, Village apaisé, sélectionné au FESPACO.
Donc c'est à 11 ans que j'ai commencé à faire bouger mes dessins. Puisqu'il n'y a pas d'école ici au Mali qui forme les animateurs 2D, je suis allé faire l'informatique. C'était un second choix.
Dans ce studio à Vortex Group, ils sont plusieurs réalisateurs, monteurs, cadreurs, une vingtaine d'employés touche à tout dans cette jeune société de production. Ici, c'est l'école de la débrouillardise, mais avec de grandes ambitions, lancer l'industrie du cinéma. À 27 ans, Gaoussou Tangara est l'un des fondateurs.
Les investisseurs maliens, ils ne savent pas l'enjeu économique tout près au Nigeria. Ils ont vraiment une industrie dédiée. Tôt ou tard, on va atteindre cet objectif. On a appris tout ça sur le tas, grâce à Internet. Donc on ne peut pas s'arrêter là.
À quelques rues, le cofondateur du groupe Toumani Keïta réalise aujourd'hui un clip, mais son rêve va plus loin.
Marvel a créé son propre modèle. Pourquoi pas nous au Mali ici? Je pense qu'il y a une centaine de réalisateurs aujourd'hui qui se débrouillent. Ils n'ont pas besoin de financement pour faire des petits projets. Mais si le financement arrive, ça nous aide à avancer.
Et à faire du travail de meilleure qualité aussi.
De meilleure qualité, en fait.
La jeune génération est donc sans moyens, mais aussi sans formation. À 26 ans, la réalisatrice Fatoumata Koulibaly a lancé Kino Bamako.
Les jeunes se retrouvent dans un lieu pour faire des films en un temps record. 72 heures, 24 heures, ils arrivent à produire des courts-métrages. S'ils ont des projets, des bouts de papier à la maison, ça leur donne un peu de courage de les réaliser.
Pour l'heure, les longs-métrages maliens restent rares. Banco Prod devrait sortir le sien à la fin de l'année. Toumani Sangaré est le réalisateur de Nogoshi, un film auto-financé, innovant, d'aventure fantastique.
On attend de l'Afrique, quand on va déposer des dossiers au guichet européen, qu'elle parle de ses problèmes de guerre, de ses problèmes de maladie. Nogoshi, j'ai voulu me mettre à l'opposé de ça. Aujourd'hui, ce n'est pas ça qui va ramener le public africain en salle. On a besoin de films qui présentent une certaine Afrique noble dans laquelle les gens vont pouvoir se reconnaître et taper fièrement sur la poitrine et dire « oui, voilà, nous, on ressemble à ça ».
Coralie Pierret, Bamako RFI.
Donc Claude Forest, vous avez entendu ce reportage. Est-ce que, comme ça vous conforte dans l'idée que vous développez dans votre livre « Production et financement du cinéma en Afrique subsaharienne francophone », dans votre idée que cette troisième génération de cinéastes depuis les indépendances, bah, finalement, elle va peut-être créer quelque chose. Elle va réussir là où peut-être les aînés n'ont pas su.
Absolument. Pas su et pas pu. Pour certains, pas voulu. Mais oui, tout à fait. Moi, je suis extrêmement confiant dans la troisième génération, celle qui arrive, les jeunes. Donc, ils n'ont ni problème lié aux indépendances, nécessité de construire une image qui soit décolonisée, voilà, ni la seconde génération qui attendait beaucoup, justement, des aides européennes, françaises, etc., et qui s'est trouvée liée à faire des films de festival. Cette troisième génération-là prend acte aussi de la faillite de leurs États. La faillite, je veux dire, en termes de non-prise en charge et de ne pas assumer certaines responsabilités en termes de législation, financement, formation, etc. Et donc, ils sont sur de la débrouille, le terme a été utilisé, je crois, donc sur le mégotage, trouver les moyens par eux-mêmes, sans attendre effectivement ni du grand frère, ni de l'État, ni de l'étranger, que soit fait. Certains vont se débrouiller, certains en trouveront aussi par ailleurs, mais comment faire avec, aujourd'hui, en tenant compte des réalités. Et ça, je trouve ça extrêmement favorable, et moi je suis tout à fait optimiste, en raison de l'abaissement des coûts de production, liés au numérique. Cela étant, ils font aussi l'apprentissage aujourd'hui, comme l'a fait Nollywood à partir des milieux des années 90, qu'il suffit pas d'appuyer sur un bouton pour créer des images et raconter une histoire. Donc tout ça s'apprend, tout ça demande du temps. Mais il y a une émulation qui se fait, mais il y a du partage qui se fait, de la concurrence aussi, naturellement. Donc parce que ce sera... ils savent maintenant qu'ils sont sur un marché, qu'il y a une compétition. Mais il va élever le niveau, forcément, structurellement, et vont émerger, et on les voit dès aujourd'hui, d'énormes talents, mais qui peut-être dans un premier temps, pour vivre, devront passer par trouver des débouchés sur la télévision, puisque objectivement il n'y a plus de salle, donc l'amortissement peut plus se faire de cette manière-là. Trouver un financement qui soit assis en partie par les diffuseurs, d'autres parties, il faut trouver de l'argent de manière autonome, il faut retrouver cette identité et le métier de producteur. Au début du cinéma, dans aucun pays au monde, l'État n'a mis d'argent. Dans aucun pays du monde, ce n'est venu des banques. Donc c'était des hommes d'affaires. Le cinéma, c'est avant tout un marché, du business. Donc on veut créer quelque chose, on essaye de trouver du préfinancement, on le fait, et puis on essaie de le vendre pour en faire un second, etc. Donc oui, je partage tout à fait les propos qui ont été tenus, et j'ai beaucoup d'espoir là-dessus. Maintenant, de là à faire une industrie, je suis beaucoup plus sceptique, il faut autre chose pour structurer l'ensemble que simplement la somme de débrouillardise. Mais ça viendra forcément à terme.
Justement, l'implantation de Canal+, en Afrique, l'arrivée d'Orange, est-ce que ces nouveaux opérateurs, pour vous, sont une bonne chose ?
Absolument, parce qu'ils ont une optique tout à fait différente que celle qui guidait les politiques françaises, qui avaient légitimement un souhait et de protéger leur propre industrie et une politique d'influence au sens large du terme, et que là ils ont compris qu'ils étaient sur un marché, et que donc pour cela il faut trouver des consommateurs acheteurs. Eux se sont bien entendu vendre des abonnements. Donc il faut plaire au public. La montée de Canal en 4 ans est absolument stupéfiante sur l'Afrique subsaharienne francophone. Ils avaient 1 million d'abonnés, ils en sont à presque 5 aujourd'hui, plus que le marché français. Donc ça veut dire que le modèle de croissance, la profitabilité, elle est là. Bien. Qu'est-ce qu'on observe partout dans le monde et aussi en Afrique francophone subsaharienne? C'est que certes, le formatage se fait, le goût se fait principalement par les industries dominantes, représentées massivement par Hollywood, qui fait un cinéma monde, c'est-à-dire un cinéma, et puis aussi de la télévision, faite pour la demande. Bien, ils étudient d'abord ce que veulent les spectateurs ou téléspectateurs, et on produit en conséquence. Et que Canal+ est obligé d'être sur aussi ce modèle-là. Pour faire la croissance des abonnés, ils vont devoir avoir des images-là. Or, que demande maintenant tout le monde, c'est à la fois de la distraction de type monde, mais aussi de plus en plus en réaction face à cette globalisation des images. Aujourd'hui, tous les jeunes ont un accès à Internet, donc ils peuvent regarder sur leur smartphone ce qui se fait ailleurs, ils comprennent, ils voient, et ça leur donne des envies et des idées également. Et que les populations, elles ont envie de voir des images avec des histoires et des gens qui leur ressemblent. Autrement dit, et c'est la grande chance aujourd'hui, y compris pour tous les jeunes créateurs, les Burkinabés ont envie de voir des séries et des images et des histoires avec des Burkinabés, et qui leur parlent de ce qui se passe au Burkina. Mais le Togo, c'est absolument pareil. Et au Bénin, les Béninois ont envie de voir des images. Donc ça veut dire que Canal et Orange en croissant, et toutes les plateformes qui vont arriver, y compris s'il y en a des Africaines qui arrivent, ils voudront séduire leurs publics locaux. Donc face à la globalisation, on a une localisation, donc on appelle ça de la glocalisation, un effet des deux. On a à la fois une ouverture sur le monde entier pour voir ce qui se passe ailleurs, voilà. Ils suivent tous les aventures de Madame Kardashian, voilà, c'est formidable. Mais aussi, ils ont envie de savoir ce qui se passe avec leurs coutumes, avec leur mode de vie, etc.
Mais du coup, est-ce qu'on ne vit pas le risque d'avoir une sorte de cinéma africain à deux vitesses? C'est-à-dire, d'un côté, des productions, comme vous le disiez, Claude Forest, très locales, et puis, de l'autre, les grands financeurs historiques, étatiques, le fonds Uberbals aux Pays-Bas, l'aide au cinéma du monde en France, qui, eux, visent clairement les grands festivals internationaux, Festival de Cannes, Venise, etc.
Oui, probablement, mais on parle de choses différentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un cinéma, il y a des cinémas, il n'y a pas un genre, il y a des genres, et puis il n'y a pas un public, il y a des publics. Donc c'est savoir qu'est-ce qu'on vise. Si effectivement, les organismes subventionneurs du Nord continuent à rester sur l'image de « on veut un cinéma dit de qualité, dit d'auteur », bah ils continueront sur cette mission-là. Et pourquoi pas? Il y en aura toujours besoin. Et cet aspect-là, pourquoi pas, aussi est intéressant. Bien. Maintenant, à qui s'adressent ces films? C'est une vraie question. L'autre version, c'est pas de vitesse, c'est des objectifs différents, certainement avec des moyens différents, mais surtout qui visent des publics différents. Alors, qu'est-ce qui serait important? Est-ce que le film fait prochainement par un Malien soit vu par 500 000 Maliens ou soit vu par 30 000 personnes en France? Ce sont des choix, donc des marchés différents. Il y a un troisième niveau, et moi auquel je crois à terme, et qu'on voit apparaître avec le Nigeria, parce que la critique pouvait aussi se faire au début avec les films du Nigeria, qui s'adressaient à un public local, mais le marché étant très étendu, ça leur a permis justement d'accroître en quantité, en nombre, en se professionnalisant, et du coup aussi de commencer à monter en qualité progressivement pour pouvoir s'exporter. Donc on a un marché national, on a un marché de festival que vous évoquiez, mais il y a l'autre marché qui est aussi important, c'est un marché international. Est-ce que les films pourront s'exporter au-delà des frontières, d'abord sur la sous-région, voire sur d'autres continents. Là encore, c'est des critères différents, des modes de narration différents, un niveau de qualité différent, mais à terme, oui, pourquoi pas. Mais je ne pense pas, et je pense qu'il faut arrêter de penser en opposition cinéma d'auteur versus commercial, festival versus populaire, etc. Pour dire qu'il y a des cinémas, et d'ailleurs des auteurs peuvent se mettre au cours de leur carrière, au service de ces différents types de cinéma. Donc moi, je pense plutôt en complémentarité plutôt qu'en opposition.
Alors pour compléter l'espoir hein, qui est né avec cette troisième génération de cinéastes, hein, troisième génération depuis les indépendances, je vous propose Claude Forest d'écouter le réalisateur béninois Samson Kokou Adjao. Alors lui il fait aussi appel au numérique mais en fait pour faire appel au financement participatif pour son film. Il essaye de produire un film qui s'intitule Pour une poignée de gombo. C'est l'adaptation du roman de Sophie Adonon. Samson Kokou Adjao, joint au téléphone par Sinatou Sakar.
J'ai l'ambition de faire un film, un long métrage. J'étais forcément conscient que je n'aurais pas la possibilité de réunir la totalité de mon budget en comptant sur un producteur local, parce qu'il n'y en a pas. Voilà, j'ai voulu lancer un crowdfunding, tout au moins pour couvrir les charges compressibles liées au tournage du film. Et en fait, je m'étais inspiré d'un certain nombre d'expériences que des collègues ont fait précédemment, que ce soit une collègue réalisatrice du Burundi, enfin un certain nombre de collègues, mais jamais au Bénin, et qui ont réussi quand même à lever un certain nombre de fonds. L'objectif est de pouvoir réunir 10 millions. 10 millions, je ne sais pas, ça fait 15 000 euros. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment un accompagnement de l'État, mais avec une certaine... communication pour réveiller un peu la fibre artistique des Béninois. Peut-être que ça pourra marcher.
Alors voilà, là, Claude Forest, un réalisateur béninois, Samson Kokou Adjao, qui fait appel au crowdfunding, mais qui ne passe pas d'ailleurs par une plateforme internet, mais par un système de paiement mobile local. Ça aussi, c'est astucieux et ça peut être une façon aussi de lancer la machine en l'absence de producteur.
Alors, c'est astucieux, je lui souhaite de réussir, peut-être qu'à niveau individuel, ça réussira quelquefois, je n'y crois pas à une échelle plus importante, pour plusieurs raisons, d'abord parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui aient confiance, donc autrement dit à un moment donné, qu'ils puissent se dire qu'ils vont avoir un retour sur leur investissement. Or, historiquement, il se trouve que souvent les fonds ont pu être donnés mais jamais récupérés. C'est ce qui explique aussi pourquoi il y a très peu de producteurs. Et ce qui explique aussi pourquoi il y a très peu de réalisateurs qui font confiance à des producteurs et veulent maîtriser aussi l'argent. Là encore, l'absence de l'État, l'absence de droit, l'absence d'une législation qui puisse être observée pour que chacun puisse conserver, récupérer, être sûr que l'argent soit bien redonné aux personnes qui le méritent, auxquelles elles ont droit, est un problème fondamental.
Merci Claude Forest, merci pour toutes ces pistes hein, que vous avez tracées pour ce constat. Moi, j'indique à nos auditeurs donc la publication de votre livre « Production et financement du cinéma en Afrique subsaharienne francophone de 1960 à 2018 ». Donc c'est chez L'Harmattan et c'est passionnant. Je vous souhaite une bonne fin de FESPACO.
Merci, merci beaucoup à vous.
Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Lequéré
et Sophie Torlotin, à la réalisation Ludivine Amado.
Merci à toute l'équipe de RFI à Ouagadougou, nos envoyés spéciaux Gaël Lalex et Olivier Roger, et puis évidemment Bertrand Eclair qui a assuré ce duplex. La semaine prochaine, Elisabeth, vous recevrez Fabienne Godet pour son film Nos vies formidables. D'ici là, bonne semaine à tous.
Vous avez raté la séance ? Podcastez ou réécoutez tous les cinémas du monde sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.